Radio Franca.
Radio Franca.
Radio Franca.
Radio Franca.
Radio Franca.
Radio Franca.
Bonjour. Nous sommes les élèves de 3e du groupe CHAM du collège de la Montagne Noire à La Bruyère dans le Tarn.
Quatre groupes vont vous présenter des thèmes différents.
Le premier sera sur le cancer chez les adolescents.
Le deuxième sur l'univers cinématographique de Marvel.
Le troisième sur Netflix.
Et le dernier sur l'addiction aux jeux vidéo.
Bienvenue sur Radio Franca. Nous sommes les élèves du collège de la Montagne Noire. Nous allons vous parler du cancer chez les adolescents. Je laisse maintenant la parole à Anaïs qui va vous expliquer les origines du cancer.
Merci Amandine pour ta présentation. Le cancer peut se développer en fumant, en respirant des produits chimiques, mais aussi à cause du stress et de la génétique, et beaucoup d'autres raisons.
Je m'appelle Ludivine et je vais vous parler des signes d'alerte du cancer. Les plus fréquents sont une fatigue incessante, chez les femmes, perte de sang en dehors des règles ou après la ménopause, une petite plaie qui ne cicatrise pas sur la peau ou dans la bouche, un amaigrissement ou une grosseur qui ne diminue pas, quel que soit l'endroit.
Salut, moi c'est Angélique. Il existe une infinité de cancers dans le monde. Parmi les adolescents et jeunes adultes d'Europe, 312 000 ont un cancer. Chaque année en France, environ 2 500 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chez les enfants et adolescents.
Le traitement est différent selon les types de cancers. Voici les différents éléments.
1.
La chirurgie. On opère pour enlever la tumeur.
2.
La chimiothérapie. C'est une technique de traitement principalement utilisée pour lutter contre le cancer. Elle fait appel à des médicaments puissants chargés d'arrêter les croissances des cellules cancéreuses et qui peuvent être administrés sous forme d'une pilule, d'une injection ou d'une perfusion.
3. Les thérapies ciblées. Ce sont des médicaments qui ne détruisent que les cellules malades et épargnent au maximum les cellules saines, contrairement à la chimiothérapie classique.
4.
La radiothérapie. Elle consiste à délivrer localement des rayons ou radiations ionisantes qui provoquent des dégâts majeurs au niveau de l'ADN. Comme les cellules cancéreuses ne parviennent pas à réparer ces lésions aussi bien que les cellules saines, elles ne peuvent plus se multiplier et meurent.
5.
L'hormonothérapie. L'hormonothérapie est un traitement anti-cancer qui agit sur l'ensemble du corps. Elle consiste à agir sur certaines hormones qui stimulent les cellules cancéreuses. Elle peut être utilisée seule, cancer du thyroïde ou en complément d'autres traitements anti-cancer.
Le traitement entraîne une perte de pilosité, une fatigue persistante, des troubles du sommeil, des douleurs, des vomissements, une perte d'appétit.
Aujourd'hui, près de 3/4 des enfants guérissent du cancer. Des années, voire des dizaines d'années après le diagnostic, alors qu'ils sont devenus adultes, ils peuvent toutefois voir apparaître d'autres troubles, liés aux conséquences à long terme de la maladie et de ses traitements.
La vision du cancer est différente selon les personnes touchées. Par exemple, certaines personnes disent qu'on ne se remet jamais d'un cancer ou que le cancer a détruit leur vie.
Mais à l'opposé, les personnes disent que le cancer les a forcés ou leur a permis de prendre un nouveau départ.
Donc, le cancer est une maladie qui se guérit, mais pas sans séquelles.
Maintenant, nous allons vous faire écouter la chanson « Cancer » de Stromae qui parle du cancer.
À bientôt.
Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins, et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Enfants, décidément rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes. Fumais-tu? Tu m'étonnes, mais tu m'aides.
Cancer, dis-moi cancer, cancer, cancer.
cesses tes avances. Quand c'est que tu pars en vacances. Quand c'est, quand est-ce que tu y penses. Quand c'est, ça nous fera des vacances.
Quand c'est
bonjour, vous êtes ici. Nous allons vous présenter donc la cinématographique Marvel, donc avec Baptiste.
Bonjour.
Et moi-même.
Merlin.
Avant de commencer sur ce sujet très intéressant, je vais vous parler des super-héros, de la fascination qu'on a pour eux. Voilà. Donc c'est premièrement, un super échappatoire parce que quand même, généralement, voir un film de ce genre, c'est l'assurance de profiter d'au moins 2 heures de divertissement. Parce qu'on peut pas s'ennuyer, il y a tout le temps de l'action ou du suspense. C'est... De plus, on peut trouver dans certains films de super-héros un reflet de nous-mêmes. Car on a tous envie, pour des raisons diverses, de devenir un super-héros. Et... Il nous reflète aussi un peu, car c'est soit les mêmes problèmes, soit la même société. Seulement, leur vie est plus excitante et incroyable. Et ils ont des pouvoirs qui nous font souvent très envie.
Et je tiens à dire, c'est aussi souvent la même planète. Hein, donc ça se passe souvent sur la Terre. Dans d'autres films, dans l'espace, mais c'est souvent sur la Terre. Je te laisse continuer.
Oui, en effet, c'est quand même très souvent sur la Terre, ce qui renvoie encore plus... À notre image du monde qu'on connaît. D'ailleurs, on y trouve aussi un désir de puissance chez les super-héros, cette idée d'avoir des pouvoirs, de pouvoir se défendre de tout, de pouvoir accéder à tout, sans forcément trop d'efforts ou de besoins. On a l'impression de se sentir important, quelquefois même juste, si on pourrait se servir de ses pouvoirs pour aider des opprimés ou des choses du genre. On a envie d'en avoir, vraiment. Aussi parce que souvent, dans la cinématographie, les héros ont un parcours qui est très inspirant. Ils viennent souvent de très loin, où ils ont vécu des choses soit géniales, soit quelquefois aussi horribles, qui leur ont permis de devenir les super-héros qui sont à ce moment. Et une autre chose qui nous attire presque moins sur les super-héros, mais plus sur les films, c'est qu'il y a souvent des effets spéciaux et de la très bonne musique dont vous allez nous parler, de la musique.
Voilà, donc on se retrouve tout de suite après cette petite pause.
Thank you.
Voilà. Donc, alors maintenant, je vais vous parler donc concrètement du sujet du Marvel Cinematic Universe, plus communément appelé le MCU. Donc, c'est une maison de production de films, mais à la base, c'était donc une maison de production de comics, donc les BD américaines. Puis après, ils se sont lancés dans les films. Donc, je vais d'abord vous parler des comics. Donc, les comics, ils ont été créés en 1939. Donc, à l'origine de Timely Publications, devenu après Timely Comics, et fondé notamment par l'un des plus grands visages de Marvel, Stan Lee. Donc, voilà. Donc, dans tous les films, il fait son petit caméo, sa petite apparition. Et c'est lui qui a créé les comics, qui a dessiné les comics même. Et je tiens à dire que c'est un excellent dessinateur. Donc, maintenant, on va continuer sur les films. Alors, les films, il y en a 23 en tout, donc films officiels de Marvel. Et je vais vous en citer quelques-uns. On a notamment Iron Man, donc, qui est l'homme un peu robot, qui vient un peu du futur. donc, voilà, avec son armure en nanotechnologie, ses super gadgets d'agent secret un peu.
C'est pas un des seuls à avoir utilisé son expérience et sa science pour devenir un super-héros.
Oui, voilà, car lui, en fait, il n'a pas forcément de super-pouvoir. Enfin, on pourrait dire même que son super-pouvoir, c'est son intelligence, car c'est un créateur d'armures, de missiles, d'armes. Et il s'en est inspiré pour créer son armure. Après, on a aussi Captain America. Donc, lui, c'est un peu le soldat... super soldat, donc avec son bouclier fait avec du vibranium, donc la matière la plus résistante du monde. On a aussi donc Spider-Man, l'homme araignée qui lance des toiles et qui s'accroche au mur, et plein d'autres. Donc ils forment une équipe et on les appelle les Avengers. Donc je tiens à dire aussi que dans les films, l'histoire est souvent plus développée que dans les comics, parce que les comics, en fait, c'est comme des magazines, c'est une série, donc il y a plusieurs numéros, et ça se suit pas forcément.
C'est un peu désordonné.
Oui, voilà. Alors que dans les films, on voit plus un ordre chronologique.
Parlant des films, justement, vous le savez sûrement, mais y a plusieurs catégories. Il y a les Avengers et les films en dehors pour chacun des personnages.
Oui,
mais...
voilà. Ils ont fait aussi des films individuels.
Est-ce qu'on peut trouver un lien entre tous ces films ?
Bah oui, parce qu'on retrouve un peu les mêmes personnages qui font leur apparition et... C'est plutôt rassurant de voir que ces personnages ne sont pas forcément morts. Donc voilà.
Et on trouve des clins d'œil un peu dans tous les films
Oui, c'est ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, Stan Lee, le créateur, qui fait son apparition dans chaque film. Donc voilà. Bon, bah, on va vous laisser sur ça. Et merci de nous avoir écoutés. À bientôt sur Radio Franca.
Bonjour à tous!
Bienvenue sur Radio Franca! Et voici Marjana!
Salut!
Jade!
Hey!
Roman!
Salut!
Et encore Roman!
Salut!
Nous allons parler des séries Netflix.
Netflix a été créé le 29 août 1997 par Reed Hastings et Mark Randolph.
À la fin de l'année 2018, la plateforme de streaming revendiquait pas moins de 139 millions de clients dans le monde, dont plus de 58 millions rien qu'aux États-Unis. 15,79 milliards de dollars, dont 7,6 milliards sont générés sur le sol.
Alors, je vais vous parler du top 10 des séries les plus regardées sur Netflix. Alors, ça commence par Family Business en top 1, suivi de 10%. En top 3, on retrouve Stranger Things, suivi de La Casa de Papel, de Unbelievable, de Comment élever un super-héros, de The 100. En 8e position, nous retrouvons Dark. En 9e position, il y a What If. Et enfin, en dernier, il y a Top Boy. Bon, alors, sinon, vous en pensez quoi de ce top 10 ?
Moi, j'en pense que Prison Break devrait être dans ce top 10.
Moi, je peux rien dire, j'ai pas Netflix, donc c'est entre vous.
Non, je pense que Stranger Things devait être en première position.
Moi, je mettrais bien Riverdale dans le top 10, personnellement.
Oh, moi, j'en sais rien.
Bon, du coup, plus de 137,1 millions d'abonnés dans le monde, soit plus de 58 millions aux États-Unis, proviennent de ces abonnements qui varient de 7,99 € à 13,99 €. En 2017, les souscriptions représentaient 950 millions de dollars par mois. C'est énorme!
Netflix est ce que l'on appelle un tue-l'amour. Netflix est devenu un tue-l'amour car on passe beaucoup de temps dessus, on consacre moins de temps pour nous, pour notre famille ou pour nos amis.
Netflix, devenu plus important et populaire, les gens se remettent aux séries SVOD.
Mmh. Netflix a de sacrés avantages car pour les gens qui vont rater les films au cinéma, ils vont pouvoir les voir ou même les revoir sur Netflix.
Après, je trouve que Netflix est très avantageux car il y a beaucoup de films et de séries diverses et pour tous les goûts et pour tous les âges.
Bon voilà, c'est déjà fini. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Passez une bonne journée. À très bientôt sur Radio Franca.
Bye bye.
Bonjour les auditeurs de Radio Franca, nous sommes le dernier groupe de 3e CHAM du Collège de la Montagne Noire. Ici,
Nathan,
Mathis,
Louis
et moi, Thomas. On va vous parler de l'addiction aux jeux vidéo, vu qu'on est des connaisseurs, n'est-ce pas Mathis ?
Moi ? Oui, pourquoi ?
Eh bien, dis-nous ton temps de jeu.
Ça va, pendant les vacances, je dois atteindre les 10 heures.
Ça passe.
Ouais, ça va, moi je dois faire les 15 heures.
Ah ok, mais moi je te parlais 10 heures par jour. Hein.
Ah. Ok, cool. Maintenant c'est parti pour le sujet du jour.
Bon Thomas, c'est quoi l'addiction aux jeux vidéo du coup ?
L'addiction ou la dépendance aux jeux vidéo est un trouble psychologique caractérisant un besoin irrésistible et obsessionnel de jouer à un jeu vidéo. Elle touche surtout les hommes malgré le fait que 40% des joueurs soient des femmes. Le fait que l'on soit avec des amis peut pousser à jouer encore plus. Esprit de concurrence, et ainsi augmenter l'addiction. Louis, à toi.
Au même titre que les drogues, on peut parler de réelle addiction, on retrouve des troubles psychiques similaires avec perte d'intérêt et appauvrissement de la vie affective, relationnelle et intellectuelle. On peut même voir apparaître des troubles psychiques comme un amaigrissement important chez les joueurs en excédent de poids, qui passent tout leur temps devant l'écran et en oublient de manger. On peut aussi trouver le contraire, des personnes prenant du poids à cause du grignotage et du manque d'activité sportive, à part celle sur les doigts.
La notion de repli sur soi-même est d'ailleurs quasiment toujours retrouvée. Cette addiction est particulièrement préoccupante lors de l'adolescence, période importante où jeu et scolarité ne font pas bon ménage, ayant souvent un impact sur les études à venir et sur la vie professionnelle plus tard. Pour des cas sérieux.
L'adolescent qui éprouve de la difficulté à accéder à l'autonomie au sein de la famille va, en jouant beaucoup, en coupant en quelque sorte les liens avec le monde réel, chercher à montrer sa différence, son indépendance ou son autonomie. Mais tout cela sans réellement partir, sans claquer la porte ou sans chercher une confrontation directe, comme le feraient certains. On parle d'addiction quand le jeu vidéo devient le principal centre d'intérêt, voire l'unique, au détriment des autres activités, relationnelles, professionnelles, scolaires, loisirs, sports. Tout le monde n'est pas susceptible de devenir dépendant aux jeux vidéo, mais certains sont plus fragiles que d'autres.
Merci de nous avoir écoutés, bonne fin de journée, à toi Mathis.
Au revoir.
Au revoir.
Et pour finir, on va écouter ce que j'écoute moi-même quand je joue.
Merci de votre écoute.
C'était les troisièmes chams du Collège de la Montagne Nord à La Bruyère, dans le Tarn.
Au revoir.
Radio Franca.
Radio Franca.
Radio Franca.
Radio Franca.
Radio Franca.
Radio Franca. Radio Franca.